Radio Libertaire 89,4 MHz. Tiens, au sommaire de notre émission d'aujourd'hui, on va évoquer la sortie du digital versatile disque, du DVD, de l'indispensable en compagnie d'un exégète de Vaquette, d'un hagiographe, en la présence du vicomte de Gribeauval, prince du bon goût. Cher vicomte, bonjour.
Bonjour.
Et alors, dans ce spectacle, avec ses panneaux mobiles, du côté de ceux que Vaquette apprécie, la liste commence par l'indispensable Tristan et Vaquette, Vaquette, puisque...
Oui, d'ailleurs c'est un abus, parce que, bon, après, moi, j'ai voulu avoir de la pitié pour mes chers collègues et navrants contemporains, alors j'ai mis d'autres noms, tu vois, mais en fait, dans la liste des gens bien, il suffisait de mettre le mien.
Ensuite, on a Léon Blois, Jean Edernalier, Mozart, Einstein, Godard, Villemin, Richard Feynman, Nietzsche, Diderot, etc. Donc ça, c'est la liste de tous ceux que Vaquette apprécie et qui ont fait
ouais,
ce que Vaquette
est. Ouais, c'est un peu plus compliqué quand même pour que les gens suivent, parce que c'est pas un choix délibéré ni hiérarchique. C'était en fait, ça se présente, bon, de façon ludique, comme un index des non-cités, le décor. Donc effectivement, il y a deux côtés dans l'index des non-cités, le côté noir et le côté blanc. Donc le côté qui est à ma droite et le côté qui est à ma gauche, et inversement pour le public. Donc il n'y a pas de choix de dire, là tu viens de me citer Diderot, je ne suis pas particulièrement... fan extraordinairement de Diderot, mais à un moment je cite Diderot parce que ça se présente dans le cadre du cours et du spectacle.
Donc faut bien le mettre d'un côté.
Voilà, faut bien le mettre d'un côté. Il y a même eu des noms où
qui sont des
je
deux.
Me suis dit je vais mettre quel côté, quoi. Faut pas. Je suis. Il y a que l'indispensable Tristan et Vaquette qui avait son côté, évidemment. Voilà. Et tous ceux qui sont du côté blanc, là où on se pose pas la question.
Ah oui, quand même. Non, Vaquette, là, t'exagères pour ceux qui sont du côté blanc, pour certains, méchants, Val, Renault...
Ah bah si, alors Val, t'hésites pas, putain, Val, Renault, y a rien de pire, là, cette sale racaille de vieux, là, qui... Les mecs qui étaient rebelles en 1912 et qui continuent à vendre leur fonds de commerce en faisant croire qu'ils se font encore... c'est comme les groupes là, de musique qui sont de Paris. Attention, je vais vous balancer une petite chanson anarchiste. Ça va balancer. T'attends la fin de la chanson, mais t'as rien balancé, quoi. Donc ta gueule, rentre chez toi. Comme les rappeurs, attention, attention, ça va balancer. Ben vas-y, balance, quoi. Quand ça balance, c'est bien, quoi.
Donc, on en revient à ce spectacle. Tu l'as joué combien de fois, ce cours de philo, trash, intello?
Depuis le début? Je sais pas. Beaucoup.
Et tu le joues encore?
Non.
Ou tu l'avais ressorti au moment de la sortie de ton livre?
Ouais, c'est ça. Moi, ce qui s'est passé, c'est un spectacle
comme ça.
C'est un spectacle que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est encore plus que ça. Je pense que c'est un. Après, on aime, on n'aime pas mon travail et ça, mais c'est un.
Non, on n'aime pas ou on déteste.
Voilà, pardon, une citation. Mais c'est un objet, en tout cas, qui a ressemblé de rien, de près ou de loin, à tout ce qui a pu se faire sur scène en tout. Donc voilà, ça c'est vrai. Donc j'ai été très très frustré que tout le monde le voit pas, quoi. Comme j'avais pas de DVD, justement, c'est pour ça que maintenant il y a un DVD, donc plus d'excuses. Mais je l'ai rejoué pour que les gens le voient, et je suis fier qu'ils le voient, et je suis content qu'ils le voient. Alors après, c'est le piège, si tu veux, faut aussi te renouveler. Tu peux pas non plus passer ton temps à faire sur scène un truc, mais c'est très très frustrant de te dire que j'ai fait un travail splendide et il est pas vu, quoi.
Alors, donc, on le dit, il y avait eu le texte du spectacle édité en petit livret théâtral, pour ceux qui voulaient se le rejouer chez eux ou le lire un coup de temps en temps.
Non, pour ceux qui voulaient essayer vaguement de comprendre le spectacle. Mais c'est difficile, hein, même en le lisant. Il faut leur dire.
Oui, mais voilà. Enfin...
Et en plus, c'est un spectacle, si tu veux, si tu ne le comprends pas, il n'a aucun intérêt et vous ne pourrez pas le comprendre. Donc, ne l'achetez pas. Enfin, je parle pas aux normaliens, mais les autres, ne l'achetez pas. Parce que tu sais, l'émission écoutée exclusivement par les normaliens, tu m'as dit.
Bon,
sinon je m'en vais.
Oui, le spectacle est sous-titré « Je veux être grand et beau », évidemment. Donc maintenant, il sort en version DVD. Donc le spectacle a été filmé dans les conditions du direct à trois caméras ou deux.
Trois caméras,
effectivement.
C'était donc, vraiment une histoire un coup de peau, quoi. C'est-à-dire que j'ai eu une adoratrice du grand mythe vaquettien, quelqu'un qui est intéressé par mon travail, qui a débarqué un jour avec un copain... avec une autre caméra, donc ils étaient deux. Bon, genre, j'ai filé un coup de main, quoi, je vais le filmer, puis ça serait bien. Et puis, coup de peau, ce soir-là, il y avait un cinéaste en herbe, je sais pas comment on doit, un mec qui est là-dedans, quoi, qui était venu, et au premier rang, et qui a eu la gentillesse de me filer le DV qu'il avait filmé. Donc, on s'est retrouvé avec trois caméras. Il se trouvait que moi, je l'enregistrais tous les soirs avec mon pauvre DAT branché le micro devant. Ce soir-là, c'était plutôt un bon soir. Il n'y avait pas trop de bruit dans le squat dehors, donc c'était pas trop le bordel. Et puis, c'est un peu un miracle, c'est-à-dire qu'il n'y avait quand même aucun moyen là-dessus. C'est fait sans aucun moyen, et on arrive au bout du compte. Mais c'est parce que je suis magnifique en tout, c'est que pour ça. Et on arrive au bout du compte, comparé au DVD que j'ai pu voir, moi, de mes collègues alternatifs, que je ne citerai pas, qui techniquement, c'est ni fait ni à faire, quoi. Le mec qui te filme le spectacle avec une seule caméra du début à la fin, tu peux être aussi bon que tu veux et le spectacle peut être aussi magnifique que tu veux, t'es obligé de décrocher, c'est chiant, quoi. Et on arrive, peut-être pas à un niveau pro parce que ça manque un tout petit peu encore d'argent, mais voilà, on arrive à un truc. Moi, j'avais très peur de ça. Le DVD, il commence par une phrase de Jack Lifchin, qui est un de mes metteurs en scène préférés avec
vous savez, oui.
C'est un vrai délireman pour ceux qui connaissent pas. C'est le théâtre de l'unité. C'est splendide. Et ça commence
quoi,
par
c'est
une phrase.
Splendide.
De quoi? Non, c'est le théâtre de l'unité. Suis un peu, tu agaçant. Et ça commence par cette phrase qu'il m'avait dite un jour. Il m'avait dit, le théâtre, c'est justement ce qui passe pas en vidéo, quoi. Et moi, j'avais vraiment peur de ça, parce qu'il y a un truc qui se passe dans une salle. Je veux dire, quand tu mets un malaise dans une salle, tu te retournes vers le mec à droite, tu retournes vers le mec à gauche, tu vois leur gueule, t'es encore plus mal à l'aise. Ça, c'est impossible devant ta télé quand t'es tout seul. C'est impossible de le faire. L'œil dans une salle de théâtre, tu regardes ce que tu veux. C'est toi qui choisis. Tu veux regarder les yeux du mec, tu veux regarder le décor, si tu veux regarder. Donc, il y a forcément, quand t'as une captation, une réalisation, t'as forcément un truc qui est une vision partielle. Et j'avais
tout changement d'un média à l'autre, de toute façon.
De quoi?
Tout changement d'un média à l'autre, enfin d'une façon de présent sur scène, de disque, etc. Tout doit être remis
à plat. Oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire qu'en vidéo, on a l'impression, un peu comme on a les images et le son, qu'on a tout. Mais non, on n'a pas tout. Et on n'a surtout pas l'ambiance de la salle, de se déplacer. Donc j'avais vraiment peur que ça passe pas. Et en fait, on a beaucoup bossé dessus. Et tous les gens qui l'ont vu, qui étaient déjà fans du spectacle ou qui connaissaient pas le spectacle, c'était le plus intéressant. Voilà, moi j'ai convaincu des gens qui connaissaient pas mon travail sur scène et qui l'ont vu. Ça fonctionne, quoi. C'est pas uniquement un témoignage de dire ok, c'est un ersatz, pas bien. Ce que j'avais fait, il y a la première version de ce spectacle, j'avais sorti une espèce de vidéo, mais c'était nul. Ça le faisait pas, tu vois, je la montrais pas. C'était, ça desservait plutôt qu'autre chose. Et là, celle-là, ça passe bien. Moi, j'en suis vraiment très fier. Et en plus, ça marque une étape, quoi. Tu vois, mon boulot, il y a un vrai roman, il y a un vrai DVD. Les deux, je les revendique. Je parle pas de mes disques, que je revendique pas totalement. Je pense pas être au niveau de mon ambition. Donc, il y a des bonnes choses. Il y a des chansons de très bon goût que les autres n'oseraient pas faire. Donc, ça, je le revendique. Par contre, la réalisation au sens très large, je suis pas très sûr que ce soit passionnant et très moderne. Quand t'écoutes Stupeflip, je préfère Stupeflip à mes chansons, quoi. Même si mes textes sont largement aussi bien que les leurs.
Vaquette, tu as dit que tu avais de l'ambition?
Oh là là, ça ne se savait pas peut-être.
Toi, tu veux être grand et beau, oui.
Oui, moi j'ai de la haute ambition. C'est l'un des trucs les plus atypiques dans mon discours et dans mon milieu. Moi, pour ceux bien sûr qui confondent tous les mots, parce que dans nos milieux dits alternatifs, il y a plein de gens qui haïssent l'ambition. Alors déjà parce qu'ils confondent avec l'arrivisme. Moi, tu vois, après 15 ans de carrière, j'ai prouvé que j'étais tout sauf arriviste. D'ailleurs, déjà, ça commence déjà à sonner, ça doit être des insultes. Non, c'est quelqu'un qui arrive, pardon. J'ai prouvé que j'étais tout sauf arriviste. Par contre, la complaisance qui consiste à dire « Ouais, moi je suis dans l'alternatif, tu vois, bon, c'est peut-être pas terrible ce que je fais, c'est le système qui veut pas de moi et à la fin être médiocre. » Moi, je crois pas, je crois que moi j'ai été élevé par Balzac, j'ai été élevé par Ferré, j'ai été élevé par les Béru, j'ai été élevé par Blois, j'ai été élevé par tout ça. Et j'ai envie d'être à la hauteur de ce que m'ont amené ces gens-là, modestement. Moi, je prenais un apéritif il y a 2-3 jours avec une jeune fille qui m'a dit, j'ai mis 7 ans à comprendre ton travail, ce que je peux comprendre, c'est-à-dire un peu à rentrer dedans, elle disait qu'il y a un truc bizarre, c'est intéressant, mais quand même ça me dérange tout ça, peu à peu elle a suivi le truc, elle commence, et maintenant elle est fan, et elle dit, tu me fais grandir, voilà, tu m'élèves, tu m'emmènes vers quelque chose, truc. Moi je demande pas plus, alors ça peut paraître peut-être prétentieux à plein de gens, moi dans ma pratique je suis d'une humilité manifeste, parce que l'humilité, c'est de vouloir avoir conscience de ses lacunes. Je te disais, mais dis, c'est pas à hauteur de mes ambitions. C'est ça, l'humilité. Et ensuite, bosser. C'est pas faire, ouais, attends, tout se vaut, pour qui tu te prends? Vas-y, moi, je bosse pas, mais en fait, tout est pas terrible et c'est pas cool. Ça me saoule. Ça, c'est pas respecter, justement, nos valeurs, entre guillemets, ou pas respecter les valeurs qu'on prétend défendre. Là, on est dans une émission de chanson, on prétend défendre la chanson. Eh ben, on bosse pour faire la chanson le mieux possible pour arriver au niveau de Ferré. Sinon, on respecte pas. Oui, on respecte les idées libertaires, on respecte les idées de révolte. Et bien, on essaye de construire. Moi, je construis des choses et j'espère instiller dans la tête des gens des choses un petit peu subversives qui vont les secouer. Bon, voilà.
Mais tu cites Ferré, par exemple. Effectivement, on peut considérer qu'il a foutu un grand coup de pied dans la fourmilière de la chanson en cassant la forme habituelle pour faire des machins. Il y a sûrement eu des gens qui, avant, ont mis des choses en place, peut-être dans cette direction-là. Tu cites les Béru, on peut partir sur le punk qui là aussi a placé une énergie un peu différente peut-être, ou Oui, et puis qu'est-ce que Vaquette a apporté? Ou qu'est-ce que Vaquette veut apporter?
Alors déjà, qu'est-ce qu'il veut apporter? Moi, je ne raisonne pas comme ça. Je pense que c'est vraiment pas comme ça qu'il faut raisonner. Et tu te dis pas, tiens, je vais construire un produit extérieur, que ce soit un produit commercial ou un produit en se disant, non, je ne suis pas commercial, machin. Moi, j'essaye d'aller au bout. J'ai toujours dit ça, l'intégrité artistique, c'est d'aller d'abord au bout de mon monde avec le plus d'intégrité, le plus de courage possible. Et si moi, j'étais dans la salle, ou si moi, je lisais mon bouquin, qu'est-ce que moi, j'adorerais voir? Donc moi, je me suis pas dit avant coup, je suis fait pour ça et je vais le faire. Et par contre, je cherche chaque jour ce pour quoi je suis fait le plus sincèrement possible. Et pour ça que j'ai une haine des formats. C'est un de mes discours les plus récurrents en ce moment. Je supporte plus les formats. Si tu es un artiste au sens fort, si tu cherches ton monde à toi, c'est-à-dire ta particularité à toi, tu peux pas faire une forme qui ressemble à un autre. Parce que ça veut dire que tu rentres dans les chaussons d'un autre. T'es plus toi. Alors, les gens qui écrivent du polar, tout ça, j'en connais plein qui sont des gens que j'aime bien. En plus, c'est pas ça le problème. C'est qu'à partir du moment où tu écris du polar, tu peux pas parler de toi, puisque tu prends une forme qui n'est pas toi. Il faudrait vraiment un hasard de conjonction miraculeux pour que ton univers intérieur soit pile poil une forme que font les autres. Pareil, c'est pareil quand je dis du polar, c'est le reggae, c'est la forme de chanson à la Brassens il y a 72 000 ans. C'est toutes ces choses-là formatées. Donc, moi, je me suis jamais posé ces questions-là comme ça. Qu'est-ce que aujourd'hui, par contre, après coup, j'ai amené? Je pense que ce mélange de... C'est le premier de la classe qui se fait virer de partout, Vaquette. C'est-à-dire ce côté à la fois très intello, vraiment difficile, exigeant, formel, prétentieux, ambitieux, prétentieux, j'assume. Qu'il y a de la prétention, qu'il y a de l'ambition.
Oui, chiant comme du fini, quoi.
Voilà, chiant. Et dans le même temps, cette espèce d'objet ultra qui va plus loin dans un provoque les autres, qui est plutôt rigolo, là ça a pas l'air, mais normalement je...
Oui, non, mais sérieux.
Un petit peu, bon, pas trop. Et qui est rigolo, trash, hardcore, tout ça. Ce mélange-là, il appartient qu'à moi. Voilà. Ça c'est vrai. Bon.
Vaquette pourrait disparaître du jour au lendemain. L'identité de la personne qui est en face de moi, je la connais, mais on n'est pas beaucoup à le connaître. Tu pourrais faire disparaître Vaquette quand tu veux.
Je sais pas, c'est une vaste question. Oui, oui. Enfin, déjà, ta réponse est double, c'est-à-dire je peux mourir demain, hein, me faire écraser ou taper par des musulmans sectaires à la con que mes plaisanteries vont pas faire rire dans mon prochain spectacle, car... Je leur réserve quelques surprises sympathiques, de bon goût, tu imagines. Bon, déjà, ça peut arriver. Et puis après, moi, je peux décider que oui, j'ai plus rien à dire, ou que moi, derrière, le monsieur qui est derrière, il y trouve plus son compte parce que ce que je paye est trop cher par rapport à ce que j'en reçois, quoi. Mais après, c'est une question, en fait, c'est plutôt sur Radio Courtoisie qu'il faudrait me poser la question. Je suis sérieux, c'est-à-dire, est-ce que la foi disparaît, quoi? C'est ça, là, la vraie question. Moi, je regarde ça chaque jour avec un miracle. Je me dis que c'est pas possible. À un moment, tu vas te réveiller, tu vas te regarder, tu vas te moquer de toi. Tu vas te dire, ton discours, il est ridicule. Tu es ridicule. Tu n'y crois plus.
Oui,
c'est ce que je disais tout à l'heure. Val ou Renaud, ils y croient plus. Moi, je doute pas que, je dis pas que Renaud, c'était génial quand j'étais petit. Il a participé à m'élever et tout. Aujourd'hui, il y croit plus. Tu peux me raconter ce que tu veux. Soit il est d'une bêtise infinie, soit il est d'un cynisme, absolu. C'est tout. Bon. J'espère, je vais te dire la phrase de jeune con plutôt. Avant de devenir un vieux con, oui, le jour où tu vois, je ne sentirai plus d'exigence intérieure d'écrire au fond de moi, eh bien, il faudra que les gens autour de moi me disent qu'il faut que j'arrête, oui. Mais si tu me le dis, je t'emmerde, parce que moi, je ferai de la caillasse avec. Donc non, je ne sais pas, oui, Vaquette peut disparaître.
Oui, citation, Vaquette, je sais que dans le château de Gribeauval que tu occupes du côté des Cévennes, ou je ne sais plus où, tu as refait toute ta salle de bain avec des carreaux rouges sur lesquels tu as mis des phrases de tous les gens que tu apprécies. Donc, pour revenir à ma première hypothèse, dans la voie que tu as choisie, si Vaquette disparaissait violemment, qu'est-ce qu'il y aurait sur sa tombe?
Ah ben moi, j'avais un... C'est un truc sérieux, quoi. J'ai deux fantasmes. Alors, le premier, c'est un vrai fantasme, c'est pas possible. Mais ça me ferait très plaisir. Le premier, c'est d'être enterré au Panthéon, donc sans rien, tu vois. Mais ça, je pense que ça va être difficile. Et le deuxième, c'est d'être enterré au Père Lachaise avec une stèle en forme de gros doigt. Juste un gros doigt, comme ça. Il n'y a pas besoin de phrase. Alors après, tu veux que je t'écrive mon épitaphe?
Avec le rêve que les femmes viennent se frotter dessus, comme sur Victor Noir, ou viennent égorger des poulets?
Chacun en fera ce qu'il en veut. Voilà. Bon. Mais l'épitaphe, non, je ne sais pas si je vais avoir une épitaphe.
Alors, c'est chiant parce que c'est écrit en petit. J'aime pas les journaleux néo-totalitaires qui, pour 20 plaques par mois, disent quoi penser, quoi faire, qui te condamnent pour une vanne nulle, un mauvais jeu de mots. Mais que la guerre du Golfe, les lois Pascua gênent pas trop, qui t'explique que le chômage ou l'insécurité, personne n'est responsable, c'est la fatalité. et au proll à qui on pouille trois fois sa voiture. Si tu votes Jean-Marie, t'es vraiment une ordure. Et puis, il y a un endroit aussi, voilà. Le Pen a le même rôle pour le système dominant que le Bougnoul pour Le Pen, le rôle du grand méchant. La presse exhibe au peuple Le Pen au pilori, ça marche, le peuple a peur et vote World Company. Mais ça a été écrit quand, ça?
Voilà, alors c'est gentil de me tendre la perche. Ça a été écrit, donc, je pense, en 96, quelque chose comme ça, c'est-à-dire bien avant l'élection de Jacques Chirac. Et parce que, comme je suis un être merveilleux, comme je disais tout à l'heure, et un vrai immense artiste, j'ai plein de préscience, j'ai écrit l'élection de Chirac 6 ou 7 ans, ou 5 ans, je sais pas, avant qu'elle arrive. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'élection de Chirac, c'est ça. C'est-à-dire que tu as des tas de gens qui ont voté Sarko, qui ont voté les lois Perben 2, tout ça, de bonne foi. Parce que sinon, tu te rends compte, ils étaient sûrs, ces gens-là, d'être des rebelles parce qu'ils ont voté contre Chirac, quoi. Alors que moi, au moins, tu vois, moi, j'ai voté Chirac. Et moi, j'ai eu l'élégance de ne le faire qu'au premier tour. Tu vois? C'est ça, la différence.
Oui. Tiens, Vaquette, on va se passer.
Mais pour reprendre ma phrase, pour ceux qui n'ont pas compris, oui, je revendique tout à fait ça. L'utilisation des médias de Le Pen, ceux qui pensent vraiment qu'il y a un danger Le Pen et qu'on va vers le fascisme et qui te le disent au premier degré dans les concerts, il y en a qui vont appeler, qui vont gueuler parce qu'ils sont militants, leur vie tient grâce à ça, mais c'est des bouffons. Je veux dire, on l'a vu au deuxième truc de truc. Le Pen, c'est un problème, le péniste, c'est un problème.
Oui,
je ne fais pas l'apologie de Le Pen, c'est pas ça.
Il y a un danger
dis.
Le Pen.
On explique. On a dit qu'on explique. Bon. Mais de là à penser que fondamentalement la première lutte à faire en France aujourd'hui, c'est l'anti-lepénisme, ça fait doucement rire. Je pense qu'il y a quand même d'autres dangers et d'autres réalités, sans faire des fantasmes, d'autres réalités à combattre aujourd'hui, tu vois, qu'une hypothétique venue de Le Pen qui n'arrivera jamais. Voilà. Et l'utilisation par les médias de Le Pen est vraiment la même que celle que fait Le Pen avec les Arabes. C'est-à-dire, ils sont responsables de tous les maux, et pendant que tu regardes uniquement les Arabes quand t'es lepéniste, tu regardes pas le reste. Tu regardes pas que le vrai problème c'est le chômage, l'urbanisation, la mondialisation, tout ça. Eh ben c'est exactement ça. Les médias ils te mettent Le Pen, oh, c'est le problème. Et pendant ce temps-là, les lois Perben passent tranquilles. Voilà. Voilà. La censure et le conformisme intellectuel des médias passent sans problème. On est dans une société qui a jamais été aussi oppressante, jamais été aussi réactionnaire, jamais aussi peu plurielle dans son expression. Ça ne gêne absolument personne. Voilà. La censure est partout dans tous les médias, y compris sur certaines antennes qui se prétendent alternatives. Bien, tu vois, je t'aurais dit quand même. Et arrête de suer comme ça, Nicolas.
Non, on cassera ton disque demain. Tout à l'heure en direct.
Hein, de quoi?
On cassera un de tes disques tout à l'heure
en direct. Ah oui, j'aime ça.
Oui, on en était là-dessus. Je voudrais avoir ton point de vue d'ailleurs, Vaquette, là-dessus. On parle beaucoup là dans cette émission d'aujourd'hui, c'est décidé, on va faire ça comme ça. Je voudrais avoir ton point de vue là-dessus. Les journalistes, justement, qui nous embobinent en partant d'un seul coup dans un sujet qui monte en tête d'épingle, comme ça, c'est le danger de ceci ou cela, quand effectivement tout le reste à côté, la barque va dans le sens qu'on sent, effectivement. Ils le font volontairement, ou est-ce que cette histoire, il n'y a pas de méchant système
Voilà, alors donc,
la phrase vaquettienne.
Voilà, la phrase vaquettienne qui est tirée donc de ce spectacle dont on parlait tout à l'heure. C'est il n'y a pas de méchant système, il n'y a qu'une somme d'individuels lâchetés. Alors moi j'ai un discours pareil par rapport aux alternatifs assez atypique. C'est que moi la thèse du complot, qu'il y a une espèce de gens qui se réunissent à Davos et qui dirigent de tout, et que c'est à cause de ça que tu comprends, il y a un complot, c'est à cause de ça qu'on parle pas de Vaquette par exemple, puis c'est à cause de ça qu'on nous met des lois Perben 2, et puis c'est à cause de ça d'Outreau, tout ça. Mais ça se passe pas comme ça la vie. Je sais pas, ces gens-là ils vivent sur quelle planète. La vie tu la vois au quotidien, t'as des gens. De bonne foi, il y a une autre de mes nouvelles chansons, c'est sincère mais bête. Voilà. Moi, je ne vois que des gens sincères mais bêtes. La censure que je subis au quotidien, c'est que des gens. Il n'y a pas un monsieur Sarkozy, il n'en a mais rien à foutre de moi, mais il n'en a rien à foutre. Il n'y a personne qui m'interdit. C'est juste le petit journaliste qui fait, oh, mais si je fais ça, je vais avoir des ennuis. Et puis, si j'en dis telle connerie sur la radio, ah, peut-être que machin, il va appeler, on aura des ennuis avec le CSA, alors on peut pas. Ah, il faut mieux pas. C'est juste de la lâcheté. Et à un moment où chacun a un acte individuel de courage, eh ben, ça cesse tout seul. Ça cesse tout seul. Tu prends Hitler tout seul avec 10 nazis pathologiques, ils essayent de faire des camps de concentration avec leurs petites mains, mais ils vont pas y arriver. Ils n'y arriveront jamais. Voilà. Par contre, à l'inverse, c'est un truc que je dis dans mon roman, mais de toute façon, ma pensée étant cohérente parce qu'elle est merveilleuse, tout se rejoint, c'est que les grandes choses négatives de l'humanité ont toujours des causes, des responsabilités collectives. Voilà. On fait pas des camps de concentration à 10. Par contre, les grandes choses, entre guillemets, bénéfiques pour l'humanité, les livres, les découvertes éthiques, ça, c'est dû à un être humain particulier. Voilà. Les livres de Balzac, c'est pas, ça sert à rien de mettre 50 000 mecs dans un bureau.
Ah, mais attends, il devait avoir des nègres.
Tu mets 50 000 mecs qui organisent le truc.
Oui, moi, l'impression que j'ai, c'est peut-être que notre monde fonctionne un peu comme les fourmilières, si on regarde ça, comment ça marche. Chaque fourmi, elle fait n'importe quoi à sa propre façon. Elle part d'un côté, elle ramasse un truc, elle part avec, elle croise un tas, elle le dépose, et c'est comme ça que petit à petit, les choses avancent dans une direction. J'ai effectivement l'impression que notre monde, il avance comme ça, parce que ça part un peu dans tous les sens, et que globalement, ça fait quelque chose. Je crois même que le fonctionnement de notre cerveau, c'est comme ça aussi. Mais il suffirait de quoi pour qu'on parte dans une autre direction?
Moi, là encore, je vais peut-être dire quelque chose de pas très consensuel. Moi, la société libertaire à laquelle j'aspire de mes voeux, je n'ai aucune illusion comme ça. L'anarchie vaincra pas. Je suis désolé, ça va peut-être être mal vu. Alors on va dire, ah, c'est de l'anarchisme de droite parce qu'il croit pas en l'être humain. Ça me fait rire, c'est des boîtes à la con. Parce que à bout d'un moment, voilà, nous on a appris ça, enfin moi j'ai appris ça, je vais pas te mouiller, dans mes brillantes études de physique, c'est que les faits sont têtus, quoi. C'est-à-dire que tu peux faire la plus belle théorie du monde qui est super belle, si elle marche pas dans le laboratoire une fois, deux fois, 10 fois, 50 fois, c'est que c'est faux, c'est tout, même si elle est vachement belle. Alors, le problème c'est les gens, mais pas le problème c'est les gens, il faut tous les exterminer parce que je suis fasciste, c'est pas ça. C'est que moi, à mon échelle, mon DVD, c'est une histoire libertaire. Voilà. Tous les gens qui ont travaillé dessus, ils étaient libres, responsables. Ils ont voulu le faire, ils ont été motivés, ils ont fait le mieux qu'ils ont pu. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas moi qui donne les indications parce que c'est mon travail et mon DVD, ça ne veut pas dire que c'est le bordel, mais ça veut dire que c'est des gens libres, responsables, un peu ouverts, et qui ont à un moment une morale. Donc ce qui manque, pour répondre à ta question, mon discours est atrocement de droite, va qu'être fasciste. Ce qui manque, c'est la morale. Mais ça, voilà, c'est ça exactement. C'est que la société, elle est capable de mettre la loi, c'est-à-dire, tu dois faire ça, tu ne dois pas tuer, ça elle est capable. Et si tu ne le fais pas, on met des flics, on t'en met en prison. Ça elle est capable de le faire. La morale, tu peux pas l'imposer. Et la morale, objectivement, c'est un truc élitiste, entre beaucoup de guillemets. C'est pas une histoire de diplôme, c'est pas une histoire de tout ça. Ça appartient à certaines personnes, qui sont les gens avec qui j'ai des affinités électives. Voilà, il y a des gens, j'allais dire bien, mais c'est pas bien dans le sens... La morale, l'emmerdant de la morale, c'est Ferry qui dit ça, c'est que c'est toujours la morale des autres. C'est pas la morale du curé, ou je fais pas la morale d'un curé, là, ou du bien ou du mal. C'est à l'intérieur, avoir une exigence, de dire, oh, ça, non, ça c'est pas clean, ou ça c'est pas assez ambitieux, ou ça c'est pas bien. Et je vais pas le faire, parce que, ah oui, t'as raison, ça serait pas bien, mais, oh, mais c'est l'autre qui a commencé, puis il l'a bien cherché, puis j'ai pas fait exprès. Voilà, les gens, ils font ça. Le problème, c'est ça, la société, elle est comme elle est, parce que, ah, j'ai pas fait exprès, ou il l'a bien cherché, ou j'ai des raisons, et que c'est fatigant. Et le monde, il est comme il est. Alors, tu me disais tout à l'heure, l'histoire de la fourmilière. Oui, je suis le premier à abonder en ton sens. Moi, à chaque fois que je suis confronté au vrai monde, à la vraie entreprise, à n'importe quoi, je trouve ce monde d'une médiocrité incroyable, et tu fais, comment ça peut fonctionner? Comment ça peut fonctionner? Les mecs n'ont pas d'idée. C'est d'ailleurs un de mes vieux discours sur ça qui m'énerve chez mes camarades alternatifs et qui nous écoutent. Vous m'énervez. Puisque les autres, ouais, c'est des cons, les mecs de TF1, c'est des cons. Mais on est d'accord, c'est des cons. Ils sont nuls. Donc puisque nous, on est tellement mieux, tu vois, on peut être 10 fois moins. On peut les niquer. Mais on ne peut pas les niquer si on fait, ouais, moi, tu vois, ils sont nuls. D'ailleurs, je fume du teuteux, quoi, et pas cool, ouais. Tu vois, ce qu'il faudrait, quoi, c'est changer le monde. Et... Non. Si on bossait chacun avec de l'exigence, tout ça, moi j'ai l'impression d'être plus imaginatif, plus structuré, plus intelligent, plus ambitieux, plus de faire les choses mieux que Lori. Seulement eux, ils sont 50 000. Voilà. Alors moi je suis tout seul comme un con. Et en plus, si tu veux, ils se tiennent les coudes entre eux, là encore pas par complot, mais parce que chacun se justifie. C'est-à-dire que si le Télérama dit du bien de l'herbe ou de Benabar, par exemple, bon, c'est vachement plus facile pour la critique de Télérama à 3 francs de s'identifier à Benabar, qui est d'une médiocrité absolue comme lui, que de s'identifier... Mais si, c'est nul, je veux dire, c'est d'une vulgarité, c'est atroce la chanson de maintenant, je veux dire, les Delerme, les machins, ils ont quoi à nous raconter? Des petites histoires on se quitte et on s'échange des canapés, ma meuf elle lit Cosmopolitain, c'est ça? Oui. Mais moi je suis peut-être un sale con prétentieux, tout ce que tu veux, mais je préfère parler aux gens d'exigence morale, de grandeur, d'amour absolu, c'est peut-être un peu ridicule, c'est peut-être réac, tout ce que tu veux, je préfère leur parler ça, de ça, que de leur parler de, ah, ma meuf elle lit Cosmopolitain et elle fait des horoscopes. Oui. Ça me, c'est, voilà.
La dernière fois où Vaquette a eu honte de lui?
Je serais très mauvais chez Ardisson, quoi. Les questions comme ça à toute vitesse, je sais pas, il faudrait que j'y réfléchisse. Des infos, j'ai honte de moi, ça m'arrive.
Dis donc, ça fait 35 minutes qu'on cause, je sais, c'est moi qui suis responsable de cette émission, je devrais balancer de la musique normalement, mais je vais revenir sur l'époque où Vaquette s'est quasiment retrouvé interdit d'antenne sur Radio Libertaire. Il y a eu des échanges entre animateurs et certains ont dit: non, Vaquette, tu n'es pas un immense provocateur, pour faire référence à une phrase de Ferré. Et j'ai l'impression que là, depuis 35 minutes, tu ne joues pas l'immense provocateur, Vaquette. Alors, bite couille, tu nous sors ton sexe sur la table comme un chouron dont tu te réclames, ou...
Oui, moi, si tu veux, tu vois, c'est... je renierai pas ce travail-là que j'ai fait, et si tu veux me lancer là-dessus, tu vas l'assumer très vite. Moi, je m'en fous complètement. Non, mais je t'en sors. Je m'en fous. J'ai pas. Mais ça fait longtemps. Mais
là, on est dans le côté intello.
J'ai vieilli. Et c'est bien. C'est-à-dire que je suis pas devenu plus lâche ou plus raisonnable. Si c'était ça, j'aurais honte de moi et j'aurais peur. Donc, je suis prêt à faire les mêmes provos. Je les ai faites. Moi, la fameuse histoire de ma chanson provocatrice, voilà, alors de ma chanson qui s'appelle Moro Juif, voilà, t'as voulu me lancer, qui a fait ça. Parce qu'on va me lâcher, là, on va dire que c'est la dernière fois qu'on parle de ça à l'antenne, parce que c'est une chanson qui a 15 ans, qui a 10 ans. Bon. J'ai écrit ça.
De quoi elle parle?
Et elle parle de la situation en Israël. Et évidemment, le titre est au second degré. On le comprend, on ne le comprend pas. Mais évidemment, ça ne veut pas dire ce que strictement les mots veulent dire. Comme quand on dit comment vas-tu, Yo de Poil. Tu ne penses pas que le mec en face, il s'appelle Yo de Poil. Bon, c'est des abrutis, des auditeurs qui ne comprennent pas ça. J'y peux rien, je comprends qu'on n'aime pas mon travail, tout ça, mais il faut me lâcher avec ça. Voilà. Donc, cette chanson, je l'ai écrite à un moment de ma vie où justement j'ai écrit ce spectacle dont on parlait tout à l'heure et j'en avais marre. J'avais même un peu honte de l'humour, j'en avais marre. Parce que c'était. J'adore ça, moi je suis fan toujours, je suis content quand je suis rigolo et j'aime toujours Villemain et tout. Mais j'avais le sentiment quand même qu'au bout d'un moment, c'était de faire non, je déconne, j'ai des horreurs, mais non, je déconne. Et à un moment, j'ai fait ça va, j'arrête de dire non, je déconne. Le discours que je t'ai tenu tout à l'heure, j'aurais probablement pas été capable, je le pensais, je l'avais au fond de moi, mais j'aurais pas été capable de te le dire il y a 10 ans à l'antenne, parce qu'immédiatement, il y a des gens qui disent ah, il est prétentieux, machin. Aujourd'hui, je l'assume, oui, ce que je te disais tout à l'heure sur de l'herbe ou machin. Moi, je suis plus fier de dire des choses qui sont ambitieuses et grandes. Alors, c'est ridicule. C'est bien sûr qu'en parlant de cosmopolitain, on prend pas de risques. Le problème d'un artiste, si tu veux, mes collègues devraient tous réfléchir à ça. Le travail artistique, ça exige de prendre le risque, mais complètement et absolument le risque du ridicule. Parce qu'il y a un moment, le génie ou le talent, on va dire le talent, le génie, c'est un mot provocateur. Le talent, il est tout proche du ridicule. Tu vois, un mec comme Brel, c'est manifeste. Il y a des moments où il est ridicule. Voilà. Il y a ça qui fait qu'il l'est pas. Alors, on peut rester du côté du ridicule. Ouais, ça c'est clair. Mais, à un moment, t'assumes, quoi. Parce que sinon, c'est trop facile. C'est la même chose que les formats. Tu te planques derrière un format. À un moment, mon roman noir, il marche. Oui, mais j'ai peut-être pas dit des choses très très intéressantes sur moi, mais ça fonctionne, tu vois, l'histoire est bien. Ouais, ouais. Moi aussi, je peux le faire.
Mais, de toute façon, Vaquette, monter sur une scène, il y a un truc ridicule. C'est bizarre. Dans la vie, là, on n'est même pas dans la vie, puisqu'on est face à face avec un micro, donc on a une attitude différente de si on était dans un café. Mais dans la vie, ça ne viendrait pas à l'idée de parler en chantant. Donc, de toute façon, monter sur une scène, c'est du ridicule.
Bien sûr, mais justement. C'est-à-dire que dans la mesure où il y a déjà cette pression-là d'être sur scène, d'être ridicule, de ce stress-là ou de ce ridicule, la solution de facilité, parce qu'on revient toujours, moi, le fond de tout mon discours, il traite toujours autour du courage et de la lâcheté. Donc, il est vachement plus facile de te planquer derrière un artifice, de prendre un format connu où tu dis « Les gens, vous aimez pas mes chansons, mais ça va ressembler à une chanson, ça va pas vraiment déplaire. » Ou je dis « Ça va ressembler à un roman noir. » Tu te planques en faisant ça. Et il y a un moment, moi, c'est ce que j'adore et ce que m'a appris, pour moi, un des artistes vivants majeurs, qui est Coste, il m'a appris ça. Après, on peut nous détester ce qu'il fait, on peut trouver plein de choses, tout ce qu'on veut. Mais il faudrait, si les gens savaient écouter, parce que déjà, les gens parlent de Coste, ils ont jamais acheté un album. Ça, c'est un peu embêtant quand même. Ils parlent de choses, ils connaissent pas. Et si on se fait l'effort d'écouter, on reconnaît au moins avec énormément de respect cette espèce d'immense courage de dire ça va pas être possible, ma chanson elle va être ridicule, mais je vais y aller. Et au bout du compte, il aborde des thèmes que personne n'a jamais commencé du début à la fin à aborder. Mais c'est clair que tu prends le risque du ridicule, tu prends le risque de te faire jeter, voilà. C'est le chemin qui vaut ça.
Attends, Coste, il prend le risque aussi que je comprenne même pas ce qu'il chante,
oui,
ce qu'il raconte
aussi,
quand il éructe, quand il.
Mais il y a ça aussi, mais c'est quand même pas. C'est dommage d'avoir à répéter des choses qui sont tellement évidentes pour tout le monde quand les gens sont morts, qu'un grand artiste, il arrive très souvent dans l'histoire qui sont complètement incompris de son temps et qu'on le comprenne parce que le temps fait son effet, pour des mécanismes de pensée que je trouve regrettables, qui sont de la bêtise, mais beaucoup de lâcheté et de conformisme intellectuel, parce que les gens. Justement, c'est plus facile de dire « Ah ben j'aime bien Delerm ou Benabar, tu prends pas de risque, tu sais que les gens autour vont bien aimer, et ça, et de toute façon tu fais « Oh j'aime bien un peu, tu prends aucun risque », plutôt que d'arriver tout seul et de faire « J'aime bien Coste, c'est un génie ». Putain, tu t'aperçois au bout de 10 ans que finalement tu t'es fait avoir, tu passes vraiment pour un con. Donc il y a un moment, la presse, tout ça c'est l'inconformisme absolu. Il y a un truc qui me fait rire, et rire très jaune en ce moment et depuis un moment. TFN est en promo pour la sortie de son nouvel album. Il est invité partout. La question récurrente dans toutes les interviews que j'ai entendues de lui, c'est alors, presque sur le ton de l'accusation, « Bon alors TFN, pourquoi pendant 10 ans les médias n'ont pas parlé de vous ? Pendant 20 ans les médias n'ont pas parlé de vous ?» Mais le mec, il a pas honte. Il a pas honte. Parce que moi, et TFN, il est poli et tout ça, et bien. Et d'ailleurs, il a répondu à un moment dans une interview, il dit aussi, parce que j'étais très très provo, j'ai fait des conneries. Par exemple, j'étais invité chez Anne Sinclair, bon, j'ai fait un gros doigt d'honneur, tout ça. Ça, l'émission n'a pas été diffusée, tout ça. Après, je me suis traîné des casseroles, tout ça. Ok, je connais aussi, ça marche comme ça. Et maintenant, les journalistes, au lieu de dire, on est des larves, t'as vieilli, on parle que des choses vieilles, conformistes. Non, ils l'accusent, lui. C'est incroyable de bêtises, c'est-à-dire. Là, tu te dis, il faut vraiment être à une dose de bêtises. Tu vois, c'est pas subjectif, ce que je dis. La question, elle est bête. Pourquoi toi, t'as pas été invité? Moi, je suis journaliste, pourquoi toi, t'as pas été invité pendant 10 ans dans mon média? Mais c'est ton problème, Coco. Et c'est pas, c'est pas de chance, machin. Non, c'est parce que ton système fonctionne comme ça. Donc, interroge-toi sur ton système. Et soit derrière, tu le fais de façon cynique et tu fais, on invite que les vieux ratés parce que les jeunes, il y a des risques de provo et tout ça, on va se foutre dans la merde, puis que les gens, ils vont peut-être pas. Soit, t'es bête. Et puis, t'assumes, t'es bête. Puis, tu mets dans la rue, tu prends une pancarte, je suis bête. Tu vois?
Vaquette, l'art ou la choucroute, ça doit être facile?
C'est-à-dire, tu peux préciser ta question?
J'ai l'impression quand même que ce que tu apprécies, c'est des choses de gens qui vont au bout d'une idée, qui cherchent et qui donnent une forme.
Oui.
Pas facile, à part Brassens, par exemple, dans ce que tu peux citer, quoi.
Ouais, et encore, je pense pas que Brassens, à son temps, il était facile. Je suis pas très sûr que ce soit facile d'accès. C'est-à-dire que le temps patine, tout le monde, personne trouve que Van Gogh, c'est difficile aujourd'hui. Personne trouve que Picasso, c'est difficile.
Si.
Enfin, peut-être encore, mais si tu veux, bien sûr, non, mais après, bon, alors, disons, dans des milieux, personne trouve, enfin, aujourd'hui, Sade est dans la Pléiade. Bon.
Mais personne ne le lit.
Je sais pas, moi je le lis. Mais le Sade, à son époque, il était pas compréhensible, pas parce que les mots sont difficiles, il était pas compréhensible parce qu'il allait tellement loin par rapport à la structure de son époque. Voilà. Le temps, il vire tout ce qui est la mode. Donc tout ce qui tenait que par la mode, le son de l'époque, les ritournelles qui ressemblent aux autres, tout ça dégage. Et à l'inverse, tout ce qui choquait, t'embêtait, parce que ça attaquait de front les structures de l'ère du temps, ça dégage aussi, donc il reste le fond. C'est pour ça, c'est entre autres la raison pour laquelle le temps est une bonne jauge pour les artistes. Bon, ce qui est dommage, c'est que ça a l'air d'être des bonnes raisons, alors que fondamentalement, on revient là encore, il n'y a pas de méchant système, mais il y a des gens derrière, et que fondamentalement, c'est quand même le conformisme des gens, la bêtise des gens, et surtout la lâcheté des gens, qui fait que l'état du monde, il est comme ça. Voilà. C'est la phrase les gens, de bonne foi, te disent, mais t'es un grand artiste. Pas forcément à moi, je veux pas parler. Si, bon, t'es un grand artiste, alors tu seras connu dans 50 ans. Comme si c'était normal, comme si c'était pas une injustice, comme si c'était pas une saloperie de déterrer le cadavre de... Tiens, j'ai écouté un truc. Raphaël Calogero et Florent Pagny qui reprennent du Ferré. Ça, moi je suis désolé.
Ils ont le droit.
J'habite en Auvergne. J'ai des problèmes, j'ai pas reçu mon bois. J'ai un poil à bois, je me chauffe coup-poil. Eh bien, je propose à Raphaël, à Calogero et à Florent Pagny de venir pour faire combustible dans mon poil à bois. Ça me chauffera pour l'hiver et au moins ils seront bons à quelque chose. Et puis nous casserons plus les couilles.
Voilà, Vaquette, un peu de provocation. Mais ils ont le droit de reprendre du Ferré s'ils veulent.
D'abord, ils ont tous les droits. Moi, je ne mets pas des oukases.
Oui.
Je ne mets pas des communications, c'est pas le genre de moi. Ils ont le droit, mais il y a un moment, là encore, que les cyniques se démasquent, s'ils sont cyniques. Mais ils sont pas cyniques. C'est-à-dire, si tu leur demandes, Florent Pagny, tu surfes, tu t'achètes de la légitimité d'artiste, puisque t'en es pas un, en reprenant un artiste qui est mort et qui peut pas te contredire, c'est bien joué en termes de gestion de carrière, quoi. Tu lui dis ça et tu fais, vas-y, c'est parce que j'ai ma liberté de penser, quoi. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui me rend, moi, le monde vraiment douloureux. C'est pas une grande phrase, c'est prétentieux dit comme ça, qui me sauve, ouais, qui me prend, vas-y, crevez tous. C'est ça qui m'énerve au quotidien. Si les gens étaient tous cyniques et intelligents, mais moi le monde, je l'aimerais peut-être pas, mais au moins on pourrait dealer, quoi. T'aurais une grosse crapule qui te fait tata. Ah, ah, ah. Non, ça se passe jamais comme ça. Quand BD m'encule dans sa revue et me censure, il me censure pas pour des raisons que je peux t'expliquer, moi, objectif, qui sont les vraies raisons. Non, il fait, mais tu comprends, quoi, Pierre Méraud, c'est un ami. Tu ferais quoi, un ami? T'as un auteur dans ta revue, il insulte un de tes amis, t'aimerais ça, toi? Moi, c'est un ami, je peux pas. Et c'est énorme, parce que la vraie raison, c'est qu'il a publié Pierre Méraud, il publie Pierre Méraud, donc c'est lui qui le publie. Il est président du prix de Flore, à qui il a donné le prix à Pierre Méraud, alors qu'il est président, tu vois, un truc. Mais c'est énorme, c'est pas possible. Et surtout, Pierre Méraud lui sert de justification, c'est-à-dire, il fait, ok, moi je fais de la daube, mais attention, je publie Pierre Méraud, qualité. Et moi j'arrive, je démonte pourquoi Pierre Méraud, c'est de la daube aussi, seulement un peu plus prétentieuse que les autres. Ça lui casse son système, qu'il le dise. Mais c'est jamais comme ça. Quoi?
On s'en fout de ça, Vaquette, non? Avec BD, Méro, c'est un petit monde sur la rive gauche, non? Quoi?
Le souci, c'est que tous les petits mondes sont les mêmes. Tous les petits mondes, y compris dans des radios alternatives politiques. Ces petits mondes sclérosés, toutes petites gens, tu les retrouves partout. Il n'y a pas de gens méchants. Enfin, y en a probablement. Mais moi, cette idée des grands cyniques, tout ça, peut-être Mitterrand, peut-être Tapie, peut-être Seyer. Mais encore Seyer, tu le vois, il n'a pas l'air très très intelligent. Je pense qu'il est de bonne foi, il pense vraiment que le libéralisme, il ne fait pas ça par égoïsme parce que ça lui amène d'argent, tu comprends? Il pense que c'est le bon système pour le monde, parce que c'est un mensonge qui lui donne son intérêt et qu'il sert, donc il sera peut-être moins regardant sur la vérité des choses que s'il ne la sert pas. Mais de la même façon à l'inverse, Besancenot, il aurait de la thune, est-ce qu'il serait à la LCR? Est-ce qu'il ne défend pas ses petits intérêts en appelant ça des idées universelles?
Oui, mais alors, attends, ça c'était... On va retomber sur le classique, on va citer Ferré une fois de plus, le reproche qui a été fait à Ferré en lui disant « Mais monsieur, vous avez de la thune, qu'est-ce que vous faites parmi les anarchistes ?» Donc,
Il disait cette phrase que je revendique tout à fait, il disait « J'ai galéré, je crois, pendant 20 ans ou je ne sais pas combien d'années, en chantant exactement les mêmes chansons sans gagner de l'argent, et ça ne me gênait pas non plus. » C'est aussi que je parle aussi différemment aujourd'hui par rapport à 15 ans, parce qu'aujourd'hui j'ai un parcours. Moi je veux dire, on ne peut pas m'accuser. Là, genre, ton ambition c'est de l'arrivisme. C'est de l'arrivisme. Je suis bac plus 72, je suis normalien, mes potes ils gagnent plus de 10 000 euros par mois, et moi je suis à jouer dans des squats, à vivre comme une merde, et là, je suis un arriviste.
Attends, ouais. Moi j'ai une nièce qu'on est à bac fois 5. Hein.
Quoi?
Moi j'ai une nièce qu'on est à bac fois 5, c'est mieux que bac plus quelque chose, hein. C'est-à-dire c'est la cinquième fois qu'elle le passe.
Ah oui, c'est pas mal.
Oui, oui. Vaquette, question rapide quand même par rapport au spectacle « Je veux être grand et beau », comment fais-tu pour retenir tout le texte?
Oh, ça c'est une question con, quoi. D'abord tu bosses, tu montes pas sur scène, surtout un spectacle comme ça qui est hyper formel sans l'avoir répété un milliard et demi de fois, bon. Et puis tu l'as écrit.
Deuxième question, Vaquette, comment fais-tu dans ce spectacle pour faire des pompes et en même temps réciter du texte?
C'est pareil, c'est un peu d'entraînement. Mais c'est vrai que tu t'entretiens, ouais, tu fais un peu de sport. Parce que sinon, si tu fais trois pompes, ça c'est pas impressionnant comme si t'en fais 40, quoi. Donc si t'arrives pas à dire le texte en même temps que tu fais c'est ridicule. Donc, tu t'entretiens un peu.
Ouais. Oui, bon, il y a un autre moment du spectacle où tu fais peut-être mais ça c'est pour d'autres raisons. Ils n'ont qu'à découvrir le DVD en vente à la librairie du Monde Libertaire, d'ailleurs. Deux, trois petites questions encore, monsieur Tristan Eden-Vaquette. Dans le spectacle Je veux être grand et beau, qu'on retrouve donc sur le DVD en vente à la librairie et dans d'autres endroits, souhaitons-le, que fais-tu sur cette chanson?
Je fais un striptease Chippendale torride, donc je débarre en militaire.
Parce que tu n'as jamais été dans ta vie, puisque tu fus P4.
Je fus P4, à mon immense regret, en fait, c'est le désespoir de ma vie, car j'aurais tellement aimé être un beau légionnaire et me taper des chèvres. Bon, mais maintenant je suis à la campagne, en revanche, je me tape des chèvres quand même, donc l'un dans l'autre, j'ai pas tout perdu. Et sur scène, je suis en militaire. Donc voilà, et je fais un striptease Chippendale, qui est un torride avec la main d'une spectatrice dans ma culotte, et je fais un striptease quasiment intégral.
Attends, c'est même pas du striptease Chippendale, c'est repris aussi sur les clichés du striptease féminin pour les mecs qui vont bander dans leur slip avec l'accessoire qu'on frotte et compagnie, non?
Ben, c'est-à-dire que non, ça c'est un truc que m'a beaucoup reproché ma metteur en scène, si tu veux, comme il m'est arrivé plus d'être sensible à un striptease féminin que de regarder, de mater des striptease de Chippendale. Elle m'a souvent dit que j'avais une conception du striptease un peu particulière pour un Chippendale. Donc j'ai essayé de viriliser tout ça, mais c'est vrai que j'avais un rapport avec effectivement à certains trucs qui peut-être les mecs font pas, quoi. Je me suis pas tapé 40 cassettes de Chippendale, je dois dire, parce qu'elle m'a dit qu'il fallait être plus robot, quoi, genre qu'il bougeait comme des robots, tout ça. Moi, je sais pas. Enfin, j'ai fait ça comme ça, et donc à la fin, c'est quand même un grand moment d'érotisme, mais surtout de ridicule. Et c'est, voilà, donc sur cette chanson, je fais un striptease qui permet au passage de passer d'un costume à l'autre, puisque c'est un spectacle riche, hein. Et vu qu'il y a combien de changements de costumes? Il y a 4-5 changements de costumes.
Qui a dit « tu penses, donc je suis » ? Oui, évidemment, ressorti de ton contexte.
Voilà, je cherchais. Mais non, c'est une phrase de Vaquette, c'est ça. C'est Vaquette qui s'adresse à Dieu. Et il lui dit « tu penses, donc je suis ». Mais par-delà la vanne, c'est vrai. Si je devais donner une définition de Dieu, c'est pas un être... Moi, je crois pas un être extrinsèque à l'homme qui a créé l'univers, parce que j'ai fait un peu des études scientifiques, donc je sais bien qu'au-dessus des nuages, il y a autre chose. Il n'y a pas un monsieur à la barbe.
Il y a du rayonnement cosmique.
Par contre, je sais aussi qu'il y a quelque chose à l'intérieur de chacun de nous, enfin, en tout cas de moi, mais d'autres personnes que je peux rencontrer, qui dépasse le strict matérialisme ou le strict égoïsme à un instant T. Il y a quelque chose qui nous élève, alors... Après, chacun met ses mots dessus, hein. On appelle ça la conscience. Moi, je m'en fous. Quand j'utilise dans mon spectacle le mot Dieu, c'est à la fois une provo et un clin d'œil. Mais donc, si c'est ce Dieu-là et cette définition-là, alors c'est le Dieu à qui je dis je pense donc je suis. C'est cette part de là qui témoigne de l'exigence de Dieu. C'est pour moi Dieu, entre beaucoup de guillemets, mais pour moi Dieu et l'art, tout ça, c'est plein de choses qui se confondent, quoi. C'est-à-dire le fait qu'il y a un branleur de préhistorique dans sa grotte à Lascaux qui devrait tirer les gonzesses, trouver de la nourriture et puis essayer de survivre avec les ours. et puis ils s'emmerdent à faire des dessins, je veux dire. Ça prouve, il y a un moment, il y a quelque chose, il y a un acte inutile, voilà. Il y a un acte inutile et qui, où il y a un sentiment d'élévation, voilà. Alors que c'est le contraire de la religion, pour moi, le coup de Dieu. La religion, c'est justement vouloir écraser les autres, les formater et tout ça, alors que moi, le Dieu dont je parle, c'est quelque chose qui élève et qui cherche la singularité.
Ça y est, Vaquette.
C'est peut-être l'anarchie, hein.
Oui, tu vas pas te faire des amis, là, parce qu'il y en a qui vont dire, quoi, Vaquette, il parle de Dieu.
Ah,
et
non,
tout.
Mais c'est terrible. Mais
Dieu
c'est
sans
terrible.
Curé, sans livre, à part peut-être quelques livres de. Toi, tu mets Léon Blois, moi, je préfère mettre. merde, Mirbeau.
Ah, mais Mirbeau, j'aime beaucoup.
Voilà, oui,
Mirbeau,
oui.
C'est Mirbeau, le journal du. Mais je crois que je ne cite même pas dans le spectacle, tu vois, même des choses.
Oui.
Le journal d'une femme de chambre, c'est d'une cruauté, c'est hardcore, c'est énorme, c'est à la mitrailleuse lourde, et en même temps, c'est brillant, tu vois. Ah non, c'est génial, ça.
Oui, je citais tout à l'heure sextuplevaquette.org pour s'inscrire et recevoir épisodiquement les encycliques vaquettiennes. Les projets de Vaquette, on les connaît par les encycliques.
Oui,
Crevez tous, c'est pour 2010, le spectacle
2012. J'ai fait maintenant, parce que j'en avais marre qu'on me demande régulièrement, bah, alors prochain spectacle. Parce que je disais toujours, c'est dans 6 mois, et de bonne foi, en plus de bonne foi, c'était tragique. Mais et puis voilà, donc là maintenant j'ai dit, je vais dire 2012, comme ça, à mon avis, je ne serai pas en retard. Mais c'est, si je peux rappeler, juste les mouches de la foire de Nietzsche, c'est un passage dans Si par les Zarathoustra, et à un moment il dit, ils te pressent, car ils sont pressés par l'heure, mais toi, tu sais que chaque chose profonde, mais du temps à être trouvé, car il faut beaucoup de temps pour entendre le bruit de la pierre qui tombe au fond du puits profond. Ça peut paraître con ou pas con, c'est une phrase qui est vachement rentrée en résonance avec moi. Ça fait longtemps, j'y travaille, quoi, mais tous. J'y travaille pas sur le papier un peu, quand même. Je travaille pas sur les instruments, j'y travaille pas encore tout ça. Mais ça tourne, je sais, vers ce que je cherche. Mais c'est ce que je cherche, c'est bizarre. Je veux créer une fois de plus une forme radicalement nouvelle. Je veux pas que ça ressemble à de la chanson. Je veux pas que ça ressemble à du ferré ou du sous-ferré. Je veux pas que ça ressemble à du stupeflip. Je veux que ce soit de la musique électronique avec des influences de hip-hop, mais avec ce que je sais faire, mon univers. Je cherche un truc bizarre. Donc c'est forcément long, mais voilà. Et la réponse aux ceux qui éventuellement me diraient, oh, mais tu fais chier. Genre, d'abord, je me sens pas, moi, un producteur de produits d'entertainment. Donc là, chez moi, je veux, oh, bon, on a adoré ton truc. C'est gentil que vous ayez adoré mon truc. Ça me fait super plaisir et c'est vrai. Mais je vais faire le mieux possible et le plus intègrement possible et j'espère que le résultat sera bien, mais je me sens pas obligé de sortir un album tous les 2 ans comme Renaud, quoi.
Rendez-vous dans 10 siècles et on prend date.
Mais oui, mais avec plaisir, tu penses à me cryogéniser? Jeuniser.